Littérature-audio.com vous présente Les Fables d'Ésope, tome 1. Lu par Bruissement, Choriste, Carole, Gilles-Claude, Jean-Luc, Latiti, Pomme et Stanley.
De l'âne et du cheval. Un cheval richement paré rencontra dans son chemin un pauvre âne qui gémissait sous le poids de sa charge. Le cheval, que son riche harnais rendait insolent, remplissait l'air de hennissement et criait à l'âne de se retirer et de lui faire place. L'âne, saisi de frayeur, se rangea promptement sans répliquer. Le cheval allait à la guerre. Il en revint si harassé et si usé que son maître, le voyant hors d'état de lui rendre aucun service, le vendit à un paysan qui le mit à un chariot pour porter du fumier. L'âne le rencontra au bout de quelque temps et lui demanda, tout étonné d'un changement si étrange, ce qu'il avait fait de son beau harnais, de sa riche housse, de son mor doré qui le rendait si fier et si superbe et qui lui inspirait tant de mépris pour ceux qui ne voudraient maintenant faire aucune comparaison avec lui.
D'un cerf et d'un chasseur. Un cerf, se regardant dans une fontaine, fut charmé de la beauté de son bois. Mais ses jambes grêles et déliées ne lui plurent nullement. Pendant qu'il se contemplait et qu'il raisonnait en lui-même, un chasseur survint tout à coup, accompagné de chiens en sonnant du cor. Ce bruit obligea le cerf à prendre promptement la fuite. Il devança les chiens de bien loin en rase campagne, à la faveur de la légèreté de ses jambes. Le chasseur le poursuivant toujours, le cerf se cacha dans une forêt où ses cornes demeurèrent embarrassées aux branches des arbres. Alors, il reconnut son erreur. Et il comprit combien ses jambes déliées et souples lui étaient utiles pour le délivrer de ceux qui le poursuivaient, et combien son bois, dont il avait tant admiré la beauté, lui était funeste, puisqu'il était la cause de sa mort.
Du serpent et de la lime. Un serpent, s'étant enfermé dans la forge d'un serrurier, voulut ronger tous ses outils. Il attaqua d'abord l'enclume, mais ne la pouvant entamer, il la quitta pour s'attaquer à la lime. Croyant qu'il y trouverait mieux son compte et qu'il en viendrait plus aisément à bout, la lime lui dit, en se moquant de ses vains efforts, « Sotte bête que tu es! Quelle est ta folie? Comment pourrais-tu me ronger avec tes dents, moi qui ronge le fer et qui peux mettre en poudre l'enclume que tu n'as pu seulement entamer? »
des loups et des brebis. Les loups et les brebis, après une longue et sanglante guerre, firent une espèce de trêve dans laquelle ils convinrent de se donner des otages de part et d'autre. Les brebis consentirent de livrer leurs chiens. Les loups donnèrent aux brebis leurs louveteaux qui, étant devenus plus grands, se jetèrent sur les brebis et les dévorèrent sans résistance parce qu'elles n'avaient plus leurs chiens pour venir à leur secours. Les loups, de leur côté, dévorèrent les chiens qui ne se tenaient point sur leur garde et qui vivaient en assurance sur la bonne foi du traité.
D'un bûcheron et d'une forêt. Un bûcheron, entrant dans une forêt, lui demanda la permission de prendre du bois pour faire un manche à sa cognée. Elle y consentit, mais peu de temps après, elle se repentit de sa complaisance, car le bûcheron se servit de sa cognée pour couper de grandes branches d'arbres et pour dépouiller la forêt de ses principaux ornements. Sans qu'elle pût s'en défendre parce qu'elle avait fourni des armes au bûcheron contre elle-même.
Du loup et du chien. Un loup rencontra par hasard un chien dans un bois au commencement du jour. Il se mit à le caresser et à lui demander de ses nouvelles. Il le questionna sur son embonpoint. Le chien lui répondit que les bontés de son maître et les soins qu'il prenait de lui l'avaient mis dans le bon état où il le voyait. « Car il me nourrit, ajouta-t-il, des mets de sa table et des viandes dont il mange lui-même. Outre cela, je dors dans un lieu couvert et tous ceux de la maison me font tout le bien qu'ils peuvent. » Ce discours inspira envie au loup de s'attacher au maître du chien. « Oh, que je serais heureux, lui dit-il, de servir un maître si commode. « Si cela m'arrivait, je croirais que ma condition est préférable à celle de toutes les autres bêtes. » Le chien s'offrit de le conduire à son maître et de le solliciter en sa faveur, pourvu qu'il se relâchât un peu de sa cruelle naturelle. Le loup y consentit. Leur convention ainsi faite, ils se mirent en chemin. Le jour était déjà grand. Le loup, voyant que le col du chien était tout pelé, lui en demanda la cause. « Cela n'est rien, répliqua le chien. Pendant la nuit, j'ai la liberté tout entière, et l'on me lâche pour aboyer aux voleurs. Mais pendant le jour, on me tient à la tâche, de peur que je ne morde ceux qui entrent dans la maison de mon maître. » Ce discours ralentit l'ardeur du loup, et il ne témoigna plus le même empressement pour aller trouver le maître du chien. « Adieu, lui dit-il, je ne veux pas acheter à si haut prix l'amitié de ton maître. J'aime mieux jouir de ma liberté que de faire bonne chère dans l'esclavage. »
Du ventre et des autres membres. La main et le pied voulurent autrefois faire un procès au ventre, en lui reprochant qu'il ne pouvait suffire à le nourrir, sans qu'il y contribuât de son côté. Ils voulaient l'obliger à travailler comme les autres membres s'il voulait être nourri. Il leur représenta plusieurs fois le besoin qu'il avait d'aliments. La main le refusa et ne voulut rien porter à la bouche pour le communiquer au ventre, qui tomba en peu de temps en défaillance par cette soustraction d'aliments. Tous les autres membres devinrent faibles et atténués par la disette où se trouva le ventre. La main reconnut alors son erreur et voulut contribuer à l'ordinaire à nourrir le ventre. Mais il n'était plus temps, il était trop affaibli pour faire ses fonctions, parce qu'il avait été trop longtemps vide. Il rejeta les viandes qu'on lui présenta. Ainsi, il périt. Mais toutes les parties du corps périrent avec le ventre et furent punies de leur révolte.
«
d'un singe et d'un renard. Le singe voulut un jour persuader au renard de lui prêter une partie de sa queue pour couvrir son derrière. Il dit au renard que sa queue était trop longue et qu'elle l'incommodait en marchant, au lieu que le superflu ferait honneur au singe et lui serait d'un grand secours. Ces raisons ne persuadèrent point le renard. Il dit au singe que sa queue ne l'incommodait nullement et qu'il aimait mieux en balayer la terre que d'en couvrir les fesses d'un singe.
Du renard et des raisins. Un renard ayant aperçu au haut d'un arbre quelques grappes de raisins qui commençaient à mûrir, eut envie d'en manger et fit tous ses efforts pour y atteindre. Mais, voyant que sa peine était inutile, il dissimula son chagrin et dit en se retirant qu'il ne voulait point manger de ces raisins parce qu'ils étaient encore trop verts et trop aigres.
De la belette et du renard. Un renard, pressé de la faim, entra un jour dans une grange par une ouverture fort étroite. Après avoir mangé tout son sou, il voulut sortir par la même ouverture. Mais tous ses efforts furent inutiles, parce que la grosseur de son ventre l'en empêchait. La belette, qu'il aperçut de loin, et qui connut son embarras, accourut pour lui donner conseil et pour le secourir. Après avoir examiné l'état où il se trouvait, elle lui dit qu'il devait attendre, pour sortir de la grange, qu'il fût aussi décharné et aussi maigre qu'il était avant que d'y entrer.
Du loup et des chasseurs. Un loup, vivement poursuivi par des chasseurs, désespérait de pouvoir se sauver, tant il était fatigué d'avoir couru. Il rencontra par hasard un bûcheron et le pria de vouloir lui donner un asile dans sa cabane. Le bûcheron y consentit et le cacha dans un coin. Peu de temps après, les chasseurs arrivèrent à la cabane et demandèrent au bûcheron s'ils ne savaient point où le loup s'était retiré. Il leur répondit que non, mais il leur fit signe du doigt et de l'œil pour leur montrer l'endroit où le loup était caché. Ils le cherchèrent sans pouvoir le trouver. Aussitôt qu'ils furent sortis de la cabane, le loup se retira sans rien dire au bûcheron, qui se plaignit de son incivilité, lui reprochant qu'il lui avait sauvé la vie en lui donnant un asile dans sa cabane. « Il est vrai, repartit le loup, et je ne m'en serais pas allé sans vous remercier de votre courtoisie. Si votre main, vos yeux, vos actions, vos mœurs eussent été conformes à votre vie. »
Du paon et du rossignol. Le paon se plaignit un jour à Junon, sœur et femme du maître des dieux, qu'il se rendait ridicule auprès des autres oiseaux par la rudesse et le désagrément de sa voix, au lieu que le rossignol les charmait tous par sa mélodie et par la douceur de son chant. « J'en conviens, lui répliqua Junon, mais les dieux l'ont ordonné de la sorte. Ils ont voulu que chaque animal eût un talent particulier. Si le rossignol vous surpasse par la douceur de sa voix, vous le surpassez par la beauté de votre plumage. La force et le partage de l'aigle, le corbeau donne de bons augures. La corneille est faite pour annoncer les malheurs. Il faut que chacun se contente de sa condition et qu'il se soumette à la volonté des dieux.
De l'oiseleur et du merle. Un oiseleur tendait des raies pour y prendre des oiseaux. Le merle qu'il aperçut de loin lui demanda à quoi il s'occupait. « Je bâtis une ville », lui répondit l'oiseleur. Après qu'il se fut retiré, le merle eut la curiosité de venir voir cet ouvrage, se fiant à la parole et à la bonne foi de l'oiseleur. Mais s'étant trop approché du filet, il y demeura pris. « Je vous proteste, dit-il à l'oiseleur qui a couru promptement pour s'en saisir, que si vous bâtissez toujours de semblables villes, vous n'aurez guère d'habitants. »
Du cerf et du cheval. Le cheval, qui n'avait point encore été dompté par le mors ni par la bride, se plaignait un jour à un paysan d'un cerf qui venait manger l'herbe dans un pré où il paissait, et le pria de l'aider à en tirer vengeance. « Je le veux bien, dit le paysan, à condition que vous ferez tout ce que je vous dirai. » Le cheval y acquiesça. Alors le paysan, profitant de l'occasion, lui mit sur le dos une selle et un mors à la bouche. Il monta dessus et poursuivit le cerf avec tant d'ardeur qu'il l'atteignit et le tua. Le cheval hennissait de joie, se voyant si bien vengé, et ne craignant plus les insultes du cerf. Mais le paysan, qui connut combien le cheval lui pouvait être utile dans la suite, au lieu de le mettre en liberté, le conduisit chez lui, l'attacha à une charrue et le fit servir à labourer la terre.
De l'âne et du lion. L'âne paissait un jour dans la compagnie d'un coq. Un lion vint pour attaquer l'âne. Le coq chanta. On dit que le lion a une horreur naturelle du chant de cet animal. Le lion se mit à fuir. L'âne, qui s'imagina follement que le lion le redoutait, le poursuivit à toute outrance. Mais quand le lion se vit assez éloigné, pour ne plus craindre le chant du coq, et pour ne le plus entendre, il revint sur ses pas, se jeta sur l'âne et le dévora. « Malheureux que je suis !» s'écria-t-il en se voyant aux derniers abois. « De quoi me suis-je avisé de vouloir faire le vaillant, et pourquoi ai-je voulu m'exposer au combat, puisque je ne suis point né de parents guerriers ?»
D'un vautour et des autres oiseaux. Un vautour, ayant manqué plusieurs oiseaux de son voisinage, feignit qu'il avait envie de les traiter et de leur donner un grand repas, en signe d'une parfaite réconciliation. Les oiseaux, trop faciles et trop crédules, trompés par ses belles apparences, ne manquèrent pas de se trouver en foule à la fête, se flattant d'être bien régalés, et que c'était une belle occasion de se réconcilier pour toujours avec un ennemi si dangereux et qui leur faisait depuis longtemps une guerre si cruelle. Mais ils furent bien épouvantés quand ils virent qu'ils se jetaient sur eux et qu'ils les égorgeaient impitoyablement les uns après les autres. Ils reconnurent à leurs dépens le peu de fond qu'il faut faire sur les belles paroles d'un ennemi.
Du lion et du renard. Le lion, affaibli par la vieillesse, ne pouvait plus prendre les autres animaux à la course. Il se résolut de se servir d'artifice pour les surprendre et en faire la curée. Il se retira dans le fond de sa caverne pour mieux exécuter ce dessein et fit savoir partout qu'il était malade. Les autres animaux accoururent pour le visiter, mais il les étranglait et les dévorait à mesure qu'ils entraient dans sa caverne. Le renard se douta de la ruse du lion et du mauvais tour qu'il avait joué à ceux qui étaient venus le visiter. Il se contenta donc de demander de loin au lion, et sans entrer dans sa caverne, comment il se portait.
« Oh, je me porte fort mal, » dit le lion. « Pourquoi n'entrez-vous pas ? » ajouta-t-il.
« C'est, » lui expliqua le renard, que je vois fort bien les vestiges de ceux qui sont entrés dans cette caverne, mais je n'aperçois point les traces de ceux qui en sont sortis. »
De l'âne malade et des loups. L'âne fut obligé de garder le lit pour quelque indisposition. Le bruit de sa maladie s'étant répandu, les loups et les chiens, voyant qu'il mourrait bientôt, accoururent pour le visiter. Ils aperçurent l'ânon au travers des fentes de l'appart et lui demandèrent des nouvelles de la santé de son père. « Il se porte beaucoup mieux que vous ne voudriez, » leur répondit l'ânon.
Du chevreau et du loup. Le chevreau, étant assis sur une fenêtre assez élevée, vit passer un loup, dont il se moqua longtemps et l'accabla d'injures. Le loup, sans s'émouvoir des paroles offensantes de cet animal, « Mon ami, lui dit-il, ce n'est point toi qui m'injuries. Tu n'aurais garde de me parler de la sorte si tu ne te prévalais de l'avantage du lieu où tu te crois en sûreté. »
De l'homme et du lion. Un homme et un lion voyageaient ensemble et disputaient, chemin faisant, sur les avantages de leur espèce. Au fort de la dispute, ils aperçurent un bas-relief qui représentait Hercule étouffant un lion. « Cette figure, » dit l'homme en se tournant vers le lion, « peut apprendre que les hommes sont plus forts que les lions. »« Votre raisonnement porte à faux, » répliqua le lion, « car si nous avions parmi nous des lions sculpteurs, on verrait beaucoup plus d'hommes terrassés et étouffés par les lions que de lions par les hommes. » Cette raison ne convainquit point l'homme, qui s'opiniâtra toujours de plus en plus à défendre son opinion. Le lion, fatigué de cette dispute, se jeta sur l'homme et le mit en pièces. « Tu vois bien, maintenant, lui dit-il, lequel est le plus fort de l'homme ou du lion ?»